Amen, je dis Amen. Pardon, Farid ? Si on est plus moderne, ouais, mais ça marche pas bien, moderne. C'est pas pareil. Franchement, c'est pas pareil. Lire la Bible où tu peux... voyez ma Bible, voyez dans quel état elle est, hein, avec les écritures, les signatures, les machins, les commentaires, les endroits où je suis pas d'accord avec les commentaires. Et... Ça, tu peux pas le faire sur une application, ça marche pas bien. Cette semaine, on avait des petits-enfants à la maison, Cathy et moi. On a eu notamment, dans le courant de la semaine, on a eu Loïs et Anaé, deux de nos petites filles. Et Loïs qui a 8 ans et demi et Anaé qui a 4 ans et demi. Donc deux sœurs, les deux des quatre filles de Mathieu et Emmanuel. Et à un moment, on était dans le jardin ensemble et puis elles se sont mises à jouer à cache-cache. Alors vous savez, à cache-cache, les enfants, c'est pas toujours simple. Donc ils se cachent, il y en a un qui se cache, puis à tour de rôle, il faut chercher, trouver. Sauf que quand un enfant a 8 ans et demi et un autre 4 ans et demi, ça marche pas en fait. Parce que celui de 8 ans, quand il s'est caché, celui de 4 ans et demi va chercher pendant une heure, il va pas le trouver. Alors que celui de 4 ans et demi, quand il se cache, celui de 8 ans, en 30 secondes, il l'a trouvé. Et alors, ça finissait mal. Ça finissait toujours mal. Et ça m'a rappelé quelque chose sur lequel j'étais en train justement de réfléchir, de méditer, sur quoi je voudrais vous parler ce matin. Et qui, j'espère, ne sera pas comme pour ces deux filles, frustrant, énervant, angoissant. C'est du Dieu caché. Dieu aussi est un Dieu caché. Parfois, il se cache. Alors, ce n'est pas un jeu, c'est la différence avec le cache-cache. Hein. Dieu a trop de respect pour la créature que nous sommes, qu'il a créée lui-même. Mais c'est indéniable que Dieu se cache. Dans Ésaïe 45, 15, il y a cette parole. « Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. » Je pense qu'en 42 ans de conversion, je n'ai jamais entendu un seul message sur ce sujet. Alors, peut-être que je n'ai pas écouté les prédicateurs qu'il fallait, hein, sans doute. J'avais prévu aussi, avant, je fais une parenthèse dans mon message, je voulais accueillir et saluer Isabelle et Pascal Olive ce matin, qui sont parmi nous. Alors, c'est en parlant de prédicateur que Pascal était l'un des responsables, l'un des pasteurs du Centre Martin Luther King. Et puis, ça fait à peu près un an qu'ils sont partis pour vivre et servir à Bruxelles, en Belgique. Voilà, merci et soyez bénis. Vous nous bénissez d'être là. Donc, je disais peut-être que je n'ai pas entendu les bons prédicateurs. Je ne sais pas si Pascal a prêché déjà là-dessus. Mais en tout cas, personnellement, depuis le temps que je prêche, j'ai jamais prêché sur le Dieu caché. Pourtant, en fait, c'est un sujet très présent dans la Bible. Alors, c'est vrai qu'on préfère souvent parler du Dieu qui se montre, du Dieu qui se révèle, du Dieu qui se manifeste, du Dieu qu'on peut rencontrer, du Dieu qui se fait proche, etc., etc., etc. Et on a sans doute raison d'insister plus là-dessus. Mais je crois que c'est très important pour la vie du chrétien, à la fois pour l'équilibre de la vie du chrétien, mais aussi pour la dynamique de la vie du chrétien. Et ces deux mots sont importants, l'équilibre de la vie du chrétien et la dynamique de la vie du chrétien, de comprendre le sujet du Dieu caché. On y reviendra. Je vous propose qu'on regarde un petit peu dans l'Écriture différents passages qui nous parlent du Dieu caché, du Dieu qui se cache. Il y a trois aspects que j'ai retenus. Ce n'est pas exhaustif, mais bon. La Bible nous montre que parfois Dieu se cache et que c'est en lien avec le péché de l'homme. C'est le cas, en fait, depuis la faute d'Adam et de Ève en Éden. Depuis qu'ils ont été chassés du jardin, ils sont sortis du jardin, Dieu, d'une certaine façon, est devenu un Dieu caché. Je vous rappelle que quand ils ont péché, c'est eux qui ont compris qu'il fallait se cacher. Là aussi, il y a une espèce de jeu, entre guillemets, le cache-cache. Ils pêchent, ils se cachent. Dieu les chasse, il est caché. Et je trouve c'est intéressant. On pourrait dire beaucoup là-dessus. Mais donc, il y a une expression qui revient fréquemment dans la Bible pour examiner cette dimension du Dieu qui se cache en rapport avec le péché. En fait, cette expression, c'est « Dieu cache sa face ». On la retrouve une trentaine de fois dans la Bible. Par exemple, je vous ai pris deux exemples. Dans Ézéchiel 39, 24, il est dit « Je les ai traités selon leur souillure et leur transgression, et je leur ai caché ma face ». Donc on voit bien que c'est le péché, je leur cache ma face. Dans Ésaïe 64, verset 7, il est dit « Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. » Là encore, bon, un exemple parmi bien d'autres. Dieu cache sa face. Il est remarquable que cette expression de Dieu qui cache sa face ne se retrouve jamais dans le Nouveau Testament, mais uniquement dans le premier. C'est comme si une nouvelle économie de la gestion du péché et du pardon avait été instituée dans la Nouvelle Alliance. Et c'est le cas. Pourtant, si, l'expression se retrouve une fois dans le Nouveau Testament. Dans l'Apocalypse, Apocalypse 6, verset 15, « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, mais aussi tous les esclaves, les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» C'est le seul endroit où il nous est dit que Dieu cache sa face, ou plutôt où les hommes se cachent et demandent aux rochers de leur tomber dessus, plutôt que de subir le jugement de Dieu. En fait, ça nous parle là du jugement final à venir. Où là, ce seront les hommes pécheurs qui demanderont donc à être cachés de devant la face de Dieu et de l'agneau. Là, le temps de la grâce sera terminé. Mais en attendant, nous sommes dans ce temps de la grâce. Les autres occurrences de l'expression du Dieu qui se cache dans la Bible, on les trouve dans un autre contexte, pas forcément celui du péché, mais celui du sentiment de faiblesse de l'homme aux prises avec des circonstances difficiles. Et là, c'est l'homme qui est dans la prière et dans la supplication pour que Dieu ne lui cache pas sa face. On retrouve des exemples, je vous en ai pris deux aussi parmi d'autres. Le psaume 102, verset 3. « Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. » Donc c'est un jour de détresse, un jour difficile. La vie est dure parfois. Et le psalmiste crie à Dieu, « Ne me cache pas ta face !» Psaume 143, verset 7, « Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. » Donc ça, ce n'est pas forcément lié au péché, mais c'est lié à la difficulté de la vie parfois, aux épreuves, à tout ce qui peut être difficile dans la vie du chrétien, où on a l'impression que Dieu se cache et où le psalmiste là nous enseigne et nous montre à prier « Ne me cache pas ta face ». Mais il y a dans les textes bibliques une troisième façon de voir exprimer la notion de Dieu caché. Et cette fois, c'est ni en lien avec le péché de l'homme, ni avec la faiblesse, le désarroi, les épreuves au milieu des difficultés de la vie, donc. C'est au contraire en lien avec la nature même de Dieu. Et puisque ça touche à la nature de Dieu, ça m'intéresse davantage encore, car cela nous parle de lui, de qui il est et de comment il est. Et ça, c'est une nourriture pour le croyant. Car oui, par nature, Dieu se cache. Dieu apparaît dans l'Écriture comme un Dieu caché, et nous allons voir pourquoi. Plusieurs textes du Premier Testament parlent de ce Dieu caché. Je vous en donne un. Exode 33, 20. L'Éternel dit à Moïse, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Ce très beau texte montre que c'est par sollicitude envers l'homme, envers Moïse, que Dieu se cache. Il n'est pas là question de péché, ni de faiblesse, ni d'épreuve. C'est juste parce que l'homme est homme qu'il ne doit pas, qu'il ne peut pas, qu'il ne doit pas voir Dieu. Dieu passe, Moïse a envie de voir Dieu face à face, donc dans une dimension plus importante sans doute que celle qu'il avait vue au buisson ardent, où là, d'une certaine façon, il avait vu une manifestation de Dieu. Mais il sait qu'il y a plus, il y a des niveaux différents, j'allais dire, de voir Dieu. Et il a envie de plus. Et Dieu lui dit, « Ok, mais c'est pas possible. Je vais passer, je te prends, je te cacherai au creux du rocher et je vais mettre ma main. Quand je vais passer, je vais mettre ma main sur tes yeux, hein, comme si je passe pour pas que tu me vois. Je mets ma main et après, une fois que je suis passé, j'enlèverai ma main et là, tu me verras par derrière. » Tout ça sont des images, évidemment, pour nous expliquer que Dieu se cache et que là, c'est par sollicitude. Car l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Waouh ! Alors, on pourrait dire, oui, mais ça, c'est le Premier Testament, ça, c'est avant. Maintenant, depuis que Jésus est venu, c'est différent. Oui, oui et non. Parce que le Nouveau Testament n'est pas en reste. Lui aussi nous parle du Dieu caché. Paul, en particulier. Lui, pourtant, qui a eu de grandes révélations de Dieu. Je vous rappelle ce texte où il a eu une révélation où lui-même va en parler comme si c'était quelqu'un d'autre qui est au ciel, qui ne sait pas si c'est dans son corps, hors de son corps. Il a vu des choses ineffables dont il n'est pas permis de parler. Tellement c'est waouh ! Et donc ce Paul-là, malgré les grandes révélations qu'il a vues et qu'il a eues, il va nous parler du Dieu caché. Il évoque la nature cachée et insondable de Dieu dans ce qu'on appelle des doxologies, c'est-à-dire des formules de louange dans ses lettres. Là aussi, je vous en ai choisi deux. 1 Timothée 6. Paul va louer le Dieu, le Dieu, ouvrez les guillemets, bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Mot à mot, on retrouve le texte d'Exode. Il n'a pas vu, mais il ne peut pas le voir. À qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle ? Amen. Il finit par un Amen à cette doxologie. Je vous la redis sans m'y arrêter. Le Dieu bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Waouh. Il parle de choses qui nous dépassent là, Paul, et qui le dépassent, malgré les grandes révélations qu'il en a eues. Et puis donc le deuxième passage que j'ai choisi, c'est toujours dans la première lettre à Timothée, un peu plus loin, au verset 17, Paul s'exclame « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Et il finit par « Amen. » Inaccessible, dit-il dans le premier texte. Invisible, dit-il dans l'autre. Hey Paul, je croyais que tu connaissais le Seigneur. Moi, je croyais que tu l'avais rencontré. Je croyais que tu vivais avec lui. Je croyais que tu avais eu des révélations ineffables, des trucs. Oui, mais Dieu se cache. Il y a différents niveaux, j'aime pas le terme, mais j'en trouve pas d'autres. Différentes profondeurs, différentes altitudes, je sais pas quel mot employer pour parler de ça. Waouh, Dieu est un Dieu qui se cache. Alors on peut se poser la question, pourquoi ? Bon, j'ai parlé de la sollicitude tout à l'heure, mais la question du pourquoi, elle est importante. Parce que ça peut être très douloureux que Dieu se cache. Surtout s'il nous semble que ce n'est pas au bon moment. Ça peut être très douloureux que Dieu se cache. Et on ne comprend pas. Alors là, la Bible, elle est pleine d'exemples. Prenez Job. Souvenez-vous les souffrances de Job. Il a perdu tout. Son travail, ses enfants. Tout le monde meurt. Lui, il tombe malade. Ses amis, sa femme, le rejette. Ses amis lui conseillent le culpabilise, l'accuse, etc. Et lui, il sait bien que c'est pas de sa faute, que Dieu cache sa face. Pourquoi ? Et le livre de Job, c'est vraiment, ça prend aux tripes de voir cette souffrance de l'homme qui semble, abandonné de Dieu. Pensez à David. Relisez les psaumes, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, mais combien de psaumes dans lesquels David crie parce qu'il a envie de Dieu, il veut connaître le Seigneur un peu plus, il veut être proche de Dieu, et puis tout semble, il y a tous les ennemis autour, il est obligé de se cacher, même son fils se rebelle, etc., etc. Il n'y a rien qui marche. Et David crie, c'est douloureux quand Dieu se cache, même si ce n'est pas dû au péché. Le peuple en Égypte, 400 ans d'esclavage. Pourtant, Abraham avait des promesses incroyables. Et la famille de Joseph, de Jacob, se retrouve, d'Isaac, Jacob se retrouve en Égypte. Et là, pendant des années, Dieu cache sa face. Il ne se passe rien, que de l'esclavage. Où sont les promesses ? Dieu est caché. Pour être un peu plus contemporain, j'allais dire, souvenons-nous des martyrs. Alors des martyrs du passé, mais des martyrs actuels. Ils croient dans le même Dieu que nous. Ils ont une révélation du même Dieu que nous. Et ils espèrent jusqu'à la fin. Et certains sont tués. Où est Dieu ? Dieu se cache. Dieu se cache. Pas de réponse apparente. Un autre exemple qui est tellement parlant, bien sûr, la Shoah. Où était Dieu pendant la Shoah ? Beaucoup de Juifs posent cette question. Où était Dieu pendant la Shoah ? Qu'est-ce que c'est ce silence ? Et donc ça peut être super douloureux. Bon, je ne veux pas plomber l'atmosphère, hein, mais ça peut être super douloureux. Je voulais le faire sentir qu'à la fois c'est très beau, vous allez le voir, que Dieu se cache, mais qu'en même temps ça peut être hyper douloureux. Quand on ne connaît pas le chemin à suivre, quand Dieu nous laisse dans le brouillard, quand on ne comprend pas une situation ou une circonstance, c'est difficile que Dieu demeure caché. Mais en même temps, je parlais de l'équilibre de la vie du chrétien, et je pense que c'est important d'avoir cette notion du Dieu caché avec ce versant-là, un peu, si on peut dire, négatif, parce que c'est important de savoir que le chrétien n'a pas réponse à tout. C'est important de ne pas faire le fanfaron. Ouais, nous, on connaît le Seigneur, et nous, avec Dieu, on va faire des exploits. Et tout ça, c'est vrai. Mais attention, n'allons pas dans l'excès. Dieu est aussi largement plus grand que ce qu'on peut connaître de lui, que de la compréhension qu'on peut en avoir, et que de ce qu'on peut saisir. Non, Dieu ne se laissera jamais mettre dans une boîte d'allumettes, ni même dans un petit cerveau humain. C'est pas possible. Dieu reste un Dieu caché. Alors les textes qu'on vient de lire, notamment celui de l'Exode, nous expliquent pourquoi Dieu est un Dieu caché. C'est simplement parce que dans l'état actuel des choses, je le redis, dans l'état actuel des choses, si Dieu ne se cache pas, l'homme et même la création entière ne peuvent pas subsister. Il y a un joli mot hébreu, une expression, un concept qui exprime cela. C'est, ce mot, c'est le tzimtzum. Le tzimtzum, je trouve que c'est joli comme mot. Bizarre, mais le tzimtzum. En fait, le tzimtzum, ça exprime cette sorte de contraction de Dieu, de retrait de Dieu qui permet à la création d'exister, de naître et d'exister. Toute la création dérive de Dieu. Rien n'existe en dehors de lui. Et donc, Dieu seul existe. Rien n'existe en dehors de lui. La création n'a pas d'existence propre. Son existence dérive et dépend à chaque instant de Dieu qui la maintient. Et s'il n'y a pas ce tzimtzum de Dieu, la création disparaît, n'existe plus. Son existence, donc, à la création, dérive et dépend à chaque instant de Dieu, et notamment des 10 paroles créatrices qui ont été exprimées et que l'on retrouve dans les premiers chapitres de la Genèse. Les fameux « Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit ». Il y en a 10. Et c'est avec ces 10 paroles que Dieu crée. Dans un certain sens, l'homme ne peut pas voir Dieu, car seul Dieu peut voir Dieu. Cette nature cachée de Dieu est donc bien liée à l'existence même de la création dans son état actuel. Je le redis, dans son état actuel. Alors, pourquoi Dieu se cache? On en a dit quelques mots, on en dira un peu encore. Comment Dieu se cache? Je parlais du tzimtzum, mais c'est un concept un peu compliqué. Mais la Bible nous précise certaines choses. Notamment Job, forcément. Job a beaucoup réfléchi sur cette histoire du Dieu caché. Et Job 36-30, il nous est dit dans le livre de Job 36-30, « Voici, Dieu étend autour de lui sa lumière et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Dieu étend autour de lui sa lumière et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. » Job dit que Dieu se cache dans les profondeurs de la mer. Il aurait aussi pu dire qu'il se cache derrière les nuages, par exemple. C'est-à-dire que Dieu se cache derrière des choses, pour ne pas qu'on le voie. Avec Moïse, on a vu que Dieu se cache derrière sa main. Un autre exemple, c'est que Dieu se cache derrière la nature. La nature nous parle de Dieu, elle nous révèle des choses de Dieu, mais il n'y est que caché. On ne peut pas l'y voir parfaitement. De même, certains sentiments, comme l'amour, sont des choses derrière lesquelles Dieu se cache. Il peut y avoir la musique. Des petits témoignages perso dans le processus qui a abouti à ma conversion à l'âge de 18 ans. La musique est intervenue. J'avais un combat intérieur dans mon processus. C'était mais vraiment, est-ce que Dieu existe ou est-ce qu'il n'existe pas, etc. Et j'étais un jour en train d'écouter un groupe que j'aime toujours beaucoup, qui s'appelle Yes. C'est un truc vieux pour ceux qui ont connu ça. Et il y avait un passage de musique à un moment qui était tellement beau. Je me revois encore dans ma chambre à l'époque. Et j'ai dit, mais j'avais les larmes aux yeux et je me disais, mais c'est trop beau. Dieu existe. La musique m'avait parlé de Dieu était caché derrière la musique. C'était évident pour moi. Et plus jamais j'ai douté de l'existence de Dieu. C'est fou, hein? Et donc Dieu se cache derrière des choses. J'en ai cité quelques-unes. Mais Job dit aussi que Dieu se cache en étendant autour de lui sa lumière. Alors là, c'est un peu plus étonnant. C'est un peu comme si les rayons du soleil nous cachent le cœur du soleil. Essayez de regarder le soleil. Vous n'allez pas pouvoir le voir parce que vous allez être ébloui par les rayons du soleil. Et ça, c'est très étonnant. Même la lumière que l'on reçoit de Dieu nous cache Dieu lui-même. Intéressant. Parfois, la lumière, la compréhension, la révélation que l'on a reçue de Dieu, toutes ces choses-là peuvent nous cacher Dieu lui-même. C'est paradoxal. Dieu nous donne de la lumière et cette lumière nous empêche de voir. Dieu se cache derrière. les révélations d'hier, ta vie chrétienne d'hier, tes expériences magnifiques d'hier, tout ce que tu as compris de Dieu peut te cacher Dieu aujourd'hui, si tu n'y es pas attentif. Mais nous allons voir que tout ça, c'est fait dans un but. Tout ça, c'est fait dans un but. Quelle est la solution ? Premièrement, le passage par l'épreuve du Dieu caché, c'est-à-dire la persévérance, la confiance malgré tout, quand je ne vois plus clair, quand je ne vois plus où est Dieu, quand je suis dans le désarroi, eh bien finissent par porter du fruit. Si je persévère, si je tiens bon, si malgré tout, si tout me dit que Dieu n'existe pas, si tout me dit qu'il m'a abandonné, si tout me dit que je suis nul et que j'y arriverai jamais, eh bien si je persévère, si je passe cette épreuve du Dieu caché, eh bien ça finit par porter du fruit. Revenons encore à Job. Job 42, 5. Job, c'était quelqu'un, juste pour le contexte, qui était vraiment quelqu'un de fidèle à Dieu. Puisque dans le début du livre de Job, on voit même Dieu qui va dire à Satan, tu vois Satan, regarde Job, voilà, il est formidable, je sais. Il n'y en a pas un comme lui sur la terre. Donc quelqu'un qui connaissait Dieu, qui a été proche de Dieu et qui était obéissant et fidèle à Dieu, il n'y en avait pas d'autre comme lui. Et pourtant, il va passer par cette épreuve de la nuit, j'allais dire, du Dieu caché, qui va durer très longtemps. Et puis au bout d'un moment, après la solution qui arrive, Job va dire « Mon oreille, avant, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. » Cette épreuve-là, il a tenu bon, il est resté fidèle. Bon, il a dû se repentir à la fin parce qu'il a été un peu trop loin dans ses commentaires. Mais quand même, il a tenu ferme, il a été fidèle. Et cette expérience-là fait que tout ce qu'il connaissait avant, c'était comme s'il avait juste entendu parler de Dieu, mais que ce par quoi il était passé, avec ce Dieu caché, c'était comme s'il avait vu Dieu. Bien sûr, là encore, c'est un peu imagé. Deuxièmement, le fait que Dieu reste en partie caché, je dirais en grande partie personnellement, ça nous maintient dans une dynamique, j'ai parlé au début de mon message, la dynamique de la vie chrétienne, ça nous maintient dans une dynamique de recherche de Dieu. Si j'ai tout compris, tout su, tout compris, si hein, j'ai dit j'ai 42 années de vie chrétienne, oh là là, si vous saviez tout ce que je sais, tout ce que j'ai expérimenté, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai vu de Dieu, on y passerait la nuit à ce que je vous raconte et tout. Non. J'ai vécu tellement peu de choses. Proverbe 25, 2 nous dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Tellement important de continuer à chercher Dieu. À chercher Dieu. On ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas ce qui concerne Dieu. Une fois pour toutes. Dieu cache les choses pour que l'on sonde les choses. Le psalmiste va dire, au psaume 27, 8, « Mon cœur, donc c'est dans son cœur là qu'il parle, hein, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Donc dans la vie du croyant, de celui qui marche avec Dieu, de l'israélite là, du chrétien que nous sommes, notre cœur résonne d'un appel de Dieu. Cherchez ma face. Cherchez-moi. Cherche-moi. Et ça, c'est une dynamique. Ça, on ne peut jamais s'asseoir avec ça. On ne peut que marcher. De même, les fils de Corée, au psaume 42, nous disent « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» On disait aux fils de Corée « Mais où il est votre Dieu ?» Vous les chantez, là, vous savez, c'est ceux qui chantaient les louanges de Dieu dans le temple. Vous chantez les louanges, mais où il est votre Dieu ? Il est caché pour vous. Il est un peu caché pour nous aussi. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu ? Ça, c'est ceux qui connaissent Dieu qui disent ça, qui soupirent comme une biche. Je pense que l'été, la période des vacances, c'est peut-être un bon moment pour chercher Dieu et ne pas rester uniquement sur nos acquis, sur ce que l'on sait, sur ce que l'on connaît de lui. L'un des moyens, bien sûr, que nous a laissé le Seigneur, c'est de nous plonger dans les Écritures, on en a parlé, et aussi dans la prière, dans la relation intime avec lui. Mais c'est aussi de passer du temps, j'allais dire, dans la méditation, la réflexion. Prenons le temps de réfléchir, de méditer, de contempler tout ce que Dieu nous donne pour mieux le connaître. Recevons ces rayons pour essayer de mieux comprendre et discerner ce qu'il y a au-delà des rayons, c'est-à-dire la source, c'est-à-dire le Père. L'un des moyens, c'est aussi de regarder la vie de Jésus. Dans Colossiens 1,15, Paul va nous dire que Jésus est l'image du Dieu invisible. J'ai parlé de ce Dieu caché, invisible. Jésus en est l'image. Et une image, on la regarde et elle nous parle d'eux. 2 Corinthiens 4,4, Paul nous dit que le Messie, qui est l'image de Dieu, il le dit deux fois. Et en effet, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et pas dans les rayons. Il est dans le sein du Père, il est dans le cœur du soleil. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ça, c'est Jean 1, 18. C'est Jésus qui parle. Hein. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait, qui nous en a fait l'exégèse. Le mot là pour connaître, c'est l'exégèse. C'est lui qui nous l'a expliqué. Il nous a dit qui est Dieu. Jean 14, 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit. Avec tout ce que j'ai dit jusque-là, vous imaginez l'absurdité quelque part de cette question, de cette demande. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit. Philippe, tu veux vraiment voir le Père ? Fais gaffe. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Jésus était l'image du Père. Il suffisait de regarder à Jésus, de vivre avec Jésus pour comprendre les choses du Père, comprendre la nature du Père. C'est un peu la même chose avec le chrétien. On dit souvent que le chrétien, c'est une lettre ouverte. Nos paroles sont importantes pour les non-croyants, mais notre vie est beaucoup plus importante. Et les non-croyants pourraient... Si un non-croyant avec qui on vit nous dit « Mais montre-moi le Père, montre-moi Dieu », on pourrait presque dire « Mais... ça fait si longtemps que je suis avec toi, tu n'as pas vu quelque chose en moi ? Tu n'as pas vu dans ma vie ? Tu n'as pas exprimé que, pourquoi je suis joyeux ? Pourquoi je suis positif ? Ou pourquoi si ? Ou pourquoi j'ai toujours une espérance ? Tu n'as pas vu le Père dans tout ça ? Alors c'est peut-être, s'ils ne nous le disent pas, c'est peut-être qu'il y a encore du chemin. Jésus ne veut pas dire là donc qu'il est le Père, ce serait une hérésie. Jésus n'est pas le Père, mais il est dans le Père, il est l'image du Père. Celui qui regarde Jésus voit un peu de ce qu'est le Père, même beaucoup. Même, et je vais terminer sur ça, enfin sur cette dimension-là, même si c'est au travers d'un corps humain et d'un Messie souffrant et faible, que le Père va se révéler. Et même dans le summum de la révélation du Père, c'est-à-dire le Messie, même dans le summum de cette révélation-là, Dieu demeure caché. Il est caché derrière un corps humain. Il est si bien caché que beaucoup ne vont pas croire. Mais c'est le fils du charpentier. Est-ce qu'il n'était pas avec nous? Est-ce qu'il est caché derrière un corps? Et un corps de faiblesse, tellement faible qu'on va pouvoir le crucifier. Dieu demeure caché, même en Jésus. On va partager la scène là, dans un moment. Et Jésus est mort, ressuscité, a été glorifié, il est monté aux cieux, il est assis à la droite du Père. Et il vient encore avec nous chaque dimanche, j'allais dire, caché dans les espèces. Caché dans un morceau de pain et caché dans un petit verre de vin. Dieu demeure caché. Et la signification du pain et du vin qu'on va partager tout à l'heure, elle est énorme. Elle est énorme. Jésus va dire, ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Vous vous rendez compte que le corps de Jésus et le sang de Jésus se cachent dans un bout de pain qu'on a acheté chez le boulanger, et dans un verre de vin qu'on a tiré de la vigne. Alors j'ai dit plusieurs fois dans mon message, dans le monde tel qu'il est actuellement. C'est parce que la Bible nous parle d'un changement à venir. Du monde qui vient. Il y a le monde présent et il y a le monde à venir. Le monde qui vient. Ce moment où la Jérusalem d'en haut va rejoindre la Jérusalem d'en bas. Ce moment quand le ciel va rejoindre la terre. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, bien-aimés. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est encore caché, ça. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Waouh ! Ce ne sera plus le Dieu caché. Nous serons tels qu'il est parce que nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est 1 Jean 3, 1 et la suite. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On ne sera pas Dieu. On sera comme Dieu. Pardon ? On ne sera pas Dieu, mais on sera comme. Il y a encore des choses un peu cachées dans la Bible, vous ne croyez pas ? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, je ne suis pas sûr encore que quand on va le voir tel qu'il est, ce sera encore la fin de la fin. Parce que de toute façon, il y a l'éternité après à vivre. Donc, ce sera encore des profondeurs et des profondeurs. Imaginez la création, les galaxies. Vous savez, il y a des milliards de galaxies. Dans chaque galaxie, il y a des milliards d'étoiles. Et chaque étoile, la nôtre, c'est le Soleil, c'est la plus proche. Vous voyez à quoi elle ressemble. Et donc, si Dieu a fait une création comme ça, ce n'est que le reflet pâle de qui est Dieu. Donc on va dans l'éternité voyager de galaxie en galaxie, spirituellement j'allais dire. Hein. Ça va être incroyable de découvrir Dieu. Donc mon but c'est pas de dire ouais je connais pas le Seigneur quoi, hein, on connaît pas Dieu. Non, si on le connaît. Mais cherchons plus, cherchons plus, cherchons à découvrir le Seigneur. Prions qu'il nous cache pas sa face. Mais vivons aussi cet équilibre. Oui, je connais, mais je ne connais pas grand-chose. Et Jean finit par cette parole. Donc, quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui-même est pur. C'est fort comme parole aussi. Cette espérance de voir Dieu, alors qu'aujourd'hui, il est encore caché, eh bien, c'est une dynamique énorme pour l'avenir. Amen. Donc, partageons le pain et le vin. Je vais laisser la place à Farid pour ça.